Bonsoir à tous. Bienvenue sur un point de projection du circuit itinérant de l'UDMJC. Et je souhaiterais en premier lieu donner la parole, d'abord saluer la présence parmi nous de Anne Cochard qui nous a rejoint. On est très content qu'elle nous rejoigne ici. Et je souhaiterais en premier donner la parole à M. Vian, le président du DMJC, pour dire un mot et le remercier avant tout de nous accueillir ici, à la Maison de Marsannay.
Merci. Eh bien, bonsoir. En débutant ce propos, je veux remercier M. le maire et la municipalité de Marsannay pour son accueil et son soutien au point de projection qui existe dans cette commune. Depuis Claude Léger, qui est là, qui est le responsable, me le rappelait, depuis septembre 1982, donc voilà, et le premier film qui a été projeté ici, sans rappeler encore, c'était Au-delà du réel de Ken Russell. Voilà, c'était un petit clin d'œil au point de projection de Marsannay. Voilà. Merci aussi aux bénévoles et aux professionnels de notre circuit itinérant qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Et puis, je voudrais me réjouir avec la directrice de l'Union départementale, Marlène Perrault, du choix fait par les responsables d'enfants de cinéma, son président, Jean-Pierre Daniel, et son délégué général, Eugène Andréanski, d'avoir proposé à l'Union départementale des MJC d'être partenaire de cette rencontre nationale 2011 des coordinateurs écoles et cinéma. Pour notre association, qui est l'émanation des 14 MJC du département, le cinéma est depuis plus de 20 ans un des axes forts de notre projet d'éducation populaire. Pour l'animation du territoire, qu'il s'agisse du circuit itinérant des tourneurs, de l'UDMJC, Marsannay est une commune viticole et ça s'entend. Il faudrait mieux que ça se déguste, mais enfin bon, voilà. Donc voilà, ça s'est dégusté, oui, mais là, hein. Qu'il s'agisse du circuit itinérant, disais-je, des tourneurs de l'UDMJC qui compte 25 points de projection, essentiellement en milieu rural, avec quelques exceptions comme ici, Marsannay, et puis la commune à côté qui s'appelle Chenauve. Voilà. Pour le reste, c'est vraiment souvent de très petits villages. L'UDMJC qui aussi participe au dispositif passeur d'images, dont nous avons la coordination en Bourgogne, ou la coordination d'écoles et cinéma, dont l'Union départementale est le coordinateur en Côte d'Or, et qui met aussi en place ce dispositif dans ses salles de village. Ainsi, en 2010-2011, nous avons accueilli dans 16 communes du département 5567 élèves de la grande section de maternelle au CM2. Pour ce faire, il y a un engagement très fort de toutes les communes et ou des associations qui sont nos relais dans les villages. Mise à disposition gratuite des salles, participation aux frais de projection en prenant à leur charge la part non couverte par la billetterie, présence très importante de bénévoles et d'agents municipaux pour les séances, coopération intercommunale, puisque les écoles de certains villages vont dans d'autres écoles ou dans d'autres communes. Tout cela pour que les enfants des zones rurales aient accès aux films dans les meilleures conditions possibles. Les documents pédagogiques, les présentations de films sont préparés par notre équipe de coordination. Les projectionnistes interviennent à chaque séance pour présenter les films. Et petit plus, la spécificité de l'itinérance fait que notre appareil de projection, on m'a écrit Buisbotazzi, alors je le lis, dispose d'une fenêtre de projection que l'on peut ouvrir selon les besoins, nous permettant ainsi de respecter le format des films et donc l'œuvre originale. Alors là, on m'avait donné des caractéristiques techniques. N'ayant pas tout compris, je ne les lis pas, mais bon, voilà. Les projectionnistes qui sont, et les spécialistes qui sont dans la salle, et puis les projectionnistes de l'UD qui sont là, pourront expliquer. J'ai souligné pour un circuit comme le nôtre, l'importance du soutien des associations, points de projection, et des communes, mais il était évident qu'il n'est pas suffisant, que sans le soutien de la DRAC, en ce qui concerne les différents dispositifs, celui très important dans ce département, du Conseil général, pour ce circuit dans son ensemble, et du Conseil régional sur passeurs d'images, nous ne pourrions pas assurer ces missions. Président de l'Union départementale des MJC, mais aussi vice-président de la Fédération française des MJC, et à ce titre, ayant un regard plus global sur les quelques 600 MJC que nous fédérons, je ne peux que m'interroger sur l'avenir de ces aides indispensables. compte tenu des charges de plus en plus lourdes qui pèsent sur les collectivités et des choix qu'elles impliquent. Souvent, parfois, on rira, les mentions inutiles au détriment de la vie culturelle et associative. J'en veux pour seule illustration la perte de 25 000 emplois associatifs constatée en 2010. Enfin, et faisant écho à une des interventions faites hier soir au cours de votre séance inaugurale, je voudrais dire que le passage au numérique est aussi un de nos objectifs. Nous y travaillons en commun avec les autres circuits itinérants et nous espérons en 2013 réussir ce passage essentiel pour notre avenir, certes, mais surtout pour la poursuite de notre action de diffusion et d'animation. Je souhaite à vous tous et toutes une bonne continuation de vos travaux. Demain, la découverte encore plus approfondie de la région Bourgogne. Et je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole au maire de Marsannay qui a eu l'honneur d'être à nos côtés, monsieur le maire.
Merci. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Vous qui venez de toute la France, si mes petites notes sont exactes. Deux représentants par département, et ce que je peux constater dès ce soir, c'est que vous êtes quasiment des vrais bourguignons et presque des pataras. Pataras, c'est le nom qu'on donne aux habitants de Marsannay-la-Côte. Alors tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a une devise en Bourgogne, c'est le quart d'heure bourguignon. Quand on invite les gens, ils arrivent toujours avec un quart d'heure de retard, et quand on est pataras, également un quart d'heure de retard. Et je vous en voudrais pas, comme vous étiez dans une cave à déguster les vins de Marsannay-la-Côte, vous avez vu 30 minutes et c'est tout à fait normal, vous êtes dans les normes, donc bravo d'avoir été à l'heure. Ceci étant, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans notre commune, parce que, comme vous l'avez dit, Président, c'est très important pour nous et l'UDMJC, à travers son itinérance, fait partie du paysage culturel de Marsannay-la-Côte. Alors en quelques mots, parce que je ne veux pas être trop long, Marsannay-la-Côte, c'est plus de 5000 habitants. On fait partie du Grand Dijon, donc on pourrait dire pourquoi ? Eh bien oui, pourquoi ? Parce qu'on pense qu'effectivement, ces séances ont toute leur place dans notre vie culturelle. Et puis en même temps, Marsannay est aussi la porte d'or de la Côte de Nuit, donc vous avez découvert tout à l'heure dans les caveaux du château de Marsannay. Alors moi, je suis très heureux, effectivement, de vous accueillir parce que vous avez parlé, bien sûr, de Claude Léger. Lui, donc, c'est une figure de Marsannay qui a lancé cette association. En 82, cette salle a été construite et elle ne se désemplit pas. D'ailleurs, ça pose un souci parce que quand il faut faire des travaux, il faut l'immobiliser et on a pu faire des travaux et vous assister à une réfection complète et de la lumière et des rideaux. Malheureusement, nous nous étions engagés avec Nelly Aublin, mon adjointe à la culture, qui avait été un peu notre intermédiaire, à changer l'écran. Mais malheureusement, vous savez comme moi, entre le moment où on passe les commandes, le moment où c'est livré, malheureusement, on avait imaginé qu'il serait là ce soir. Je suis désolé, mais par contre, il sera là pour la prochaine séance. Alors, je ne vais pas être plus long. Moi, je vous souhaite un excellent séjour sur la grande ville de Dijon, et je suis très heureux que Marsannay soit un partenaire également de la ville de Dijon, qui vous accueille pendant ces plusieurs jours, que vos travaux soient fructueux. Et puis, ce que l'on dit souvent à Marsannay, et moi plus particulièrement, ce soir vous venez en tant que visiteur et vous repartirez en ami. Bonne soirée et à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci, ça me permet de faire le lien avec la suite. Donc, on va un petit peu changer notre programme légèrement, puisqu'on a pris quand même énormément de retard et que Jean-François est là et qu'on préfère garder du temps un petit peu pour discuter avec lui après la projection du film. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on donnera la parole aux deux personnes à qui j'ai demandé de parler de l'itinérance et on ne fera pas de débat, tout simplement. On le réserve pour demain matin, si vous voulez, ou pour un autre moment ou au repas tout à l'heure. Mais voilà, pour essayer de ne pas prendre trop de retard, parce que si on arrive à 11h à Dijon, ça va être très compliqué. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, moi, par rapport à l'itinérance, pourquoi on est là aussi, pourquoi on a souhaité être là, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a 43 circuits itinérants qui participent à École et Cinéma. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est l'irrigation du territoire, c'est vraiment important par rapport à un projet comme École et Cinéma. Et dans ces 43 circuits itinérants, il y en a 8, dont l'UDMJC, qui sont coordinateurs départementaux, donc qui ont la responsabilité d'un département, ce qui est aussi tout à fait singulier. Et c'est vrai que ces coordinateurs-là, enfin, moi, c'est ce que je trouve, c'est ce qu'on trouve, nous, aux enfants de cinéma, ils font vraiment partie des plus, disons, des plus, pas des plus actifs, mais des plus investis, des plus, voilà, c'est vraiment, et c'est très important, c'était une façon aussi de leur rendre hommage, parce que je sais que c'est difficile, comme le disait Camille, à qui je vais donner la parole dans 2 minutes, il disait, on recrée la salle de cinéma à chaque séance. C'est vrai que l'itinérance, c'est un peu ça. On recrée la salle de cinéma à chaque séance. Et cette phrase résume bien ce que c'est le travail de l'itinérance dont il va vous parler brièvement. Et Marlène va nous parler de l'UDMJC. Peut-être que je vais donner la parole d'abord à Marlène, puisque vous êtes le lieu qui nous accueille. Et puis Camille parlera de l'itinérance comme vous voulez, Marlène. Qu'est-ce que vous préférez ? D'accord. Qui prend la parole en premier ? Allez. Il faut y aller. Voilà. Venez. Voilà. Marlène, allez, je te laisse le micro. Il reste là, Camille, et puis on lui donnera le micro après. D'accord ? Voilà. Est-ce
que tu veux que je te le tienne ? Non, je crois que je vais arriver à m'en sortir. Eugène m'avait demandé de parler dans l'itinérance, plus particulièrement de la question de la numérisation des salles et du coup du cas très particulier des circuits itinérants. Et donc, les circuits itinérants, on s'est regroupés dans un collectif. Et de ce collectif, on a créé une association qui a vu le jour l'année dernière pendant le festival de Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, tout ça est très, très récent. En revanche, ce que je voudrais souligner aussi avec la présence du CNC dans la salle, c'est l'écoute extrêmement attentive que l'on a eue du Centre national du cinéma et de l'image animée, avec la personne chargée du dossier qui est Lionel Bertinet. Et avec lui, nous avons pu construire tout le processus qui, je l'espère, parce que je sais pas, je suis naturellement confiante, on devrait pouvoir arriver à avoir un appareil qui s'adapte à la spécificité de l'itinérance. Alors je crois savoir que dans la salle, enfin j'en connais au moins un puisque nous avons la proximité géographique, il y a parmi vous des responsables des circuits itinérants. Certains d'entre vous ont dû venir aux états généraux que nous avons organisé à Vendôme en profitant du festival du film de Vendôme. Et nous sommes accueillis par ce festival sur des rencontres professionnelles. Et donc, au cours de ces différentes rencontres, à chaque fois, on a essayé de poser la problématique de l'itinérance et plus particulièrement de la question du numérique. Alors, pour ne pas retarder et avoir le plaisir de voir le film, le tableau, je vais simplement vous dire que donc, on a travaillé avec la société Dorémy. On a eu un appareil, un prototype qui nous a été prêté dans le courant de l'été, qui était fait pour faire des tests. Donc les tests ont commencé, on n'a pas pu les mener au terme. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, en tout cas, les textes ont donné satisfaction en termes de projection. En revanche, pas du tout en termes de maniabilité voilà, et d'ergonomie de l'appareil. Donc voilà. Cependant, le cinéma, c'est à la fois de l'art, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Et donc, pour des raisons de concurrence commerciale et industrielle, que bien sûr l'Association nationale des cinémas itinérants ne maîtrise pas, eh bien, les machines que nous avions ont dû retourner à la société Dorémy et leur projet de commercialisation a été stoppé. Nous avons continué nos échanges et nous avons le soutien actif du CNC. Et donc, la société Doremi retravaille sur un nouveau projet de développement d'un nouveau projecteur qu'on pourrait tester dans le courant du premier trimestre 2012. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a toutes les inquiétudes que vous avez tous, c'est-à-dire, allons-nous avoir enfin cet appareil ? Cet appareil, ça veut dire une dérogation aussi à la fameuse norme. Alors, je crois que c'est toujours deux cas. Voilà, donc ça veut dire aussi du travail avec le CNC, avec tout l'environnement de la projection. Et puis aussi, les circuits, avec aussi nos élus, les parlementaires, les sénateurs, les députés, nos élus locaux qui peuvent faire remonter tout, parce que c'est aussi... je crois en partie ce travail-là. J'avais lu le discours du président du CNC au congrès de la Fédération des exploitants, où il soulignait que ce travail avait permis aussi que la loi globale qui permet la numérisation des salles a pu être adoptée aussi à l'unanimité. Donc c'est un travail qu'il faut absolument continuer, parce que bien sûr, pendant cette période-là, comment allons-nous avoir accès aux films? On expérimente déjà que les distributeurs ont les deux versions, et donc du coup les circuits itinérants qui arriveront déjà en septième semaine, parfois il y a certains films qu'on a du mal à avoir. Alors il y a la DRC qui va pouvoir vraisemblablement aussi nous aider. Et puis aussi, en tout cas, c'est une question que le CNC a vraiment à cœur de nous aider à régler. Voilà. Je vous recommande aussi de remplir le questionnaire, parce que bien évidemment, il y aura le financement de cet appareil. Donc il y a un gros effort global qui est fait pour que l'ensemble du parc des salles passe au numérique, et y compris les circuits itinérants. On ne va pas rentrer dans les détails. Cependant, vous avez dû recevoir, si ceux qui sont en circuit, un questionnaire à remplir envoyé par le CNC, qui recense combien il y aurait d'appareils à acquérir selon le nombre d'appareils par tournée. Donc il y a 60% environ des circuits qui l'ont rempli. Ceux qui ne l'ont pas rempli encore, ou si vous connaissez des circuits qui ne l'ont pas rempli, demandez-leur de le faire. Ça nous aidera aussi pour pouvoir voir comment sera fait le plan de financement pour nous aider à passer au numérique. Voilà. Moi, je vais juste conclure en vous invitant le vendredi 9 décembre, donc aux prochains états généraux des circuits itinérants. Le matin sera consacré aux informations générales et politiques, avec l'intervention du CNC, de la DRC, de parlementaires, etc. Mais l'après-midi surtout proposera une sensibilisation à l'environnement d'une projection numérique dans ses aspects techniques et administratifs, avec la DRC, la société Doremi pour les serveurs, Gineco pour les... Cinego, et n'y voyez aucune allusion personnelle ou quoi que ce soit. Je suis extrêmement confuse d'avoir fait ce lapsus-là. Et puis, haut et court, distributeur, on s'en est loin de l'itinérance, j'ai une grosse honte. Donc voilà, et puis après, pour toute la poésie et l'engagement de l'itinérance dont a parlé Eugène, et que je pense que c'est aussi de ça et du projet politique qu'il y a derrière, dont va parler Camille, il l'avait déjà évoqué aux premiers états généraux que nous avions organisés.
Merci beaucoup Marlène.
Je crois qu'on ne fait jamais assez de lapsus, donc. Mais bon, j'espère moi ne pas en faire trop. Moi, je suis censé parler d'école et cinéma et de l'itinérance. Je ne voudrais pas appeler ça école et cinéma itinérant. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que je dois dire tout de suite que école et cinéma, pour les cinémas itinérants, il n'y a pas de traitement de faveur, il n'y a pas de dérogation. Que ce soit pour les cinémas fixes ou pour les cinémas itinérants, c'est le même cahier des charges. Voilà, ça c'est très clair. Je vais lire un peu, hein, je suis désolé, mais sinon je ne vais pas réussir à être très clair. Donc, et oui, je voulais dire aussi qu'il arrive, comme le disait Eugène, que certains cinémas itinérants, ou tout du moins les coordinateurs, en soient les garants de ce cahier des charges. Voilà. En fait, je ne me suis pas présenté, donc évidemment, je suis Camille, mais je travaille dans le Cher, voilà, à Bourges, enfin, pour situer. Voilà. Donc, je ne vais pas parler de. Comment dire, d'école et cinéma dans ce qui pourrait être une spécificité par rapport à l'itinérance. Je crois qu'il n'y en a absolument pas. Par contre, je vais parler de l'itinérance. Presque pas de comment ça fonctionne, mais un petit peu de ce que ça peut produire. Voilà. Produire, ce n'est pas un très joli mot, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi je l'emploie. Voilà. Alors là, j'ai besoin de m'appuyer, donc je vais m'appuyer sur un... Non, ça va aller. Je vais m'appuyer sur le CNC, ou du moins sur un rapport du CNC, voilà, qui a paru en 2008-2009 et qui a été présenté pour la première fois, on en a parlé, au moment des premiers états généraux des cinémas itinérants, à Vendôme, voilà, c'était en 2009. Lors de ces premiers états généraux, il y avait évidemment... Le moment était grave, il y avait énormément d'inquiétudes, ou tout du moins beaucoup d'interrogations. Et évidemment, je ne vais pas revenir en détail sur cette journée, ni vous évoquer ce qui s'est passé par la suite, mais je dois vous avouer que la situation, comme tu l'as dit, est loin encore d'être réglée. Voilà. Mais tu parlais de 2012, je l'apprends, en fait. Je viens de l'apprendre. Voilà, bon... Suspense. Voilà. Enfin, moi, ce que j'ai perçu de ces premiers états généraux qui m'ont semblé essentiels, c'est que c'était, je pense, la première fois vraiment que les cinémas itinérants se réunissaient. Et c'était peut-être la première fois que chacun de nous entendait ce que faisaient les autres. Et souvent, on a tendance à se dire que certainement que les autres se débrouillent mieux. Et là, on s'est rendu compte, non, c'est vrai, on a toujours l'impression, enfin, on se dit que c'est pas possible, que les autres, ils doivent faire vachement mieux que nous, etc. Enfin, bon, voilà. Et là, on a remarqué qu'en fait, on travaillait tous avec les mêmes moyens, qu'on travaillait tous au même niveau, et surtout qu'on faisait face tous aux mêmes obstacles. Voilà. Et ça, c'est vraiment mon ressenti. Je suis absolument pas le porte-parole des cinémas itinérants. Mais j'ai eu l'impression, en fait, que... à ce moment-là, que les cinémas itinérants, ça existait pour de vrai. Voilà. Que ce n'étaient pas des cinémas errants, mais bien des cinémas itinérants. Voilà. Donc, je reviens sur ce rapport du CNC, où on apprend beaucoup de choses, évidemment. Il faut dire quand même un rapport qui est basé essentiellement sur les Bordeaux de recettes. Voilà. Les Bordereaux, pardon. J'ai dit quoi ? Bordeaux ? C'est un lapsus totalement inoffensif. Voilà, donc là, je m'en fiche totalement. Voilà. Enfin, c'est un lapsus adapté. Enfin, je sais pas. Voilà. Et donc, on apprend quand même deux choses qui me paraissent essentielles. Voilà, en termes de chiffres, l'ensemble des cinémas itinérants en France, je pense qu'il y en a à peu près 130, quelque chose comme ça. C'est 37 000 séances en une année. 37 000 séances. C'est 1,5 million d'entrées. 1,5 million. Et c'est 6 millions de recettes. Voilà. Alors ça paraît comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça paraît, si ça paraît important ou pas. Mais en tout cas, quand on prend connaissance de la globalité de l'exploitation cinématographique, ça représente ça. Ça représente 0,56% des séances. Ça représente 0,81% des entrées. Et évidemment, ça représente 0,53% des recettes. Voilà. Le deuxième point, ça concerne le nombre de points de diffusion, et Eugène en a parlé, je ne sais plus si c'était hier. C'est-à-dire le nombre de lieux bénéficiant d'un passage d'un cinéma itinérant comme ici. Ça représente 2160 communes. 2160 communes, ce qui rajoute donc plus de 2000 communes aux 1545 salles fixes. Voilà. Et donc, à l'exception de la Corse, toutes les régions de France ont au moins quelques cinémas itinérants, 88 départements. Voilà. Alors que dire de ces chiffres, sinon que les cinémas itinérants sont évidemment partout. Ils représentent plus de la moitié des points de diffusion en France. Mais qu'en termes d'entrée, qu'en termes de séances réalisées, et évidemment en termes de recettes, enfin d'argent, on peut même dire de business, ça représente à peu près rien. Ou enfin presque rien. Le nombre d'entrées pour, et là c'est assez saisissant, c'est-à-dire que le nombre d'entrées de l'ensemble des cinémas itinérants, c'est-à-dire 1 500 000, j'ai vu ce chiffre, un multiplex en moyenne en 2009, c'est le chiffre du CNC, hein, c'est 659 000 entrées. Voilà. Donc ça veut dire qu'on prend 3 multiplex et on a ce que fait ces 2000 points de diffusion. Voilà. Alors il faut donc trouver d'autres chiffres, parce que vous imaginez qu'avec ces chiffres-là, c'est dur de convaincre. Non, c'est pas dur, parce qu'avant Dôme, évidemment, on a parlé chiffres, mais on a parlé, il y a eu tous ces témoignages où on a justement dit que le cinéma itinérant, c'était pas que ça. Voilà. Donc il faut évidemment trouver d'autres chiffres, ou du moins imaginer des statistiques pour traduire ce que fabriquent les cinémas itinérants, et d'expliquer ce que ça produit. Et en fait, ça produit beaucoup de choses, mais évidemment beaucoup d'inquantifiables. On dit par exemple que pour chaque... Parce que les cinémas itinérants, c'est des circuits, c'est des tournées, qui a à peu près en moyenne une vingtaine de points comme ça par circuit. Et on dit, je ne sais pas ce chiffre d'où il sort, mais qu'il y a à peu près 85 personnes par circuit qui concourent au fonctionnement du circuit. Et moi, je pense que c'est au moins le triple. Au moins le triple. Mais là encore, on ne sait pas trop comment calculer ça. Je dis qu'est-ce qu'on fabrique au sens de qu'est-ce qu'on fiche, presque, qu'est-ce qu'on bouine, quoi, pour faire aussi peu d'entrées. On arrive péniblement à faire une séance quand les cinémas fixes en font 3, 5, 10, 15, 30. Le temps de l'exploitation pour les cinémas itinérants est un temps totalement dilaté, totalement, j'allais dire complexe, mais en fait, c'est tout simplement compliqué. Ce n'est jamais seulement technique, encore moins automatique. Tout prend plus de temps. Car dans chaque cinéma itinérant, personne n'a toutes les clés. On doit sans cesse sonner à la porte et attendre que quelqu'un nous ouvre. Nous sommes de l'action culturelle au sens où nous sommes de tout cœur, un peu englués dans un malentendu systématique. Trouver sur son chemin la personne qui, sans pour autant le savoir, sera la personne qui rendra possible ce que l'on va appeler l'activité. On appelle ça activité cinéma. Il faut aussi trouver, c'est là la complexité, ou plutôt c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver la personne qui viendra nous chercher pour que quelque chose commence. Et le monde de l'action culturelle est très mal fait. Il y a souvent d'un côté les gens qui ont du désir mais qui n'arrivent pas à en imaginer l'écho, et de l'autre côté ceux, nous, moi, qui cherchons sans cesse cette même personne qui l'on imagine être le moteur ou le déclencheur. Et quand il arrive qu'on se rencontre, c'est souvent le début de la fin. Donc, vous voyez là un petit peu ce qu'on fabrique. On appelle ça du lien social et ça nous prend un tout petit peu de temps. Alors, je reviens au rapport du CNC où on trouve une définition, une sorte de définition du circuit itinérant. Et ça commence par « il n'existe pas de définition juridique du circuit itinérant, ni de texte particulier fixant un minimum de points de projection, etc. etc. » A priori, il n'y a pas non plus de définition de ce que c'est qu'une salle de cinéma, ce qui nous rassure. Donc, les circuits itinérants, également appelés tournées, sont des modes d'exploitation cinématographique particuliers. Et en fait, c'est marqué, toutefois, par commodité, le circuit itinérant est assimilé à un établissement cinématographique. Donc c'est par commodité. Voilà. Mais moi, c'est pour ça que j'ai parlé des liens sociaux, c'était par commodité, d'action culturelle, c'était aussi par commodité. Ces lieux sont desservis périodiquement, j'avais dit que j'expliquerais pas trop le fonctionnement, mais là, c'est le CNC. Ces lieux sont desservis périodiquement par le tourneur qui se déplace le cas échéant avec son matériel de projection. Les lieux desservis à raison générale de 2 séances par mois sont très divers. Il s'agit dans la plupart des cas de salles des fêtes ou de foyers ruraux. Mais les circuits itinérants organisent également des projections dans des écoles, voire dans des lieux où le public est captif, comme dans des maisons d'arrêt ou des hôpitaux. Il me semble que dans les écoles aussi, le public est captif, mais que je, par délicatesse, peut-être qu'on n'a pas mis les trois en même temps. Donc, on peut dire que l'on fait du cinéma un peu partout. Et que le seul point commun de tous ces lieux, écoles, maisons d'arrêt, etc., il y a plage aussi. Plage, c'est 0,3% des lieux. C'est très poétique. Et ils ne sont pas tous cités parce qu'il y a... Le seul point commun de tous ces lieux, le seul vrai point commun, c'est qu'ils ne nous appartiennent pas. Enfin, ils ne nous appartiennent pas à nous, cinéma itinérant. On n'est jamais chez soi. Et même en faisant un effort énorme, on ne s'y sent jamais vraiment comme c'est chez soi. C'est pour cette raison, et j'étais très content de ne pas parler de numérique, mais je dis que ça fait très longtemps quand même que les cinémas itinérants sont passés à la 3D. En effet, on ne cesse d'imaginer des conventions en trois dimensions, qu'on appelle tripartites. On aime bien le relief, on aime bien mettre du tiers. C'est normal, quand on n'est jamais chez soi, on est obligé. Alors 68% de salles des fêtes, et presque 20% de lieux non identifiés. C'est un peu mystérieux. Alors sur mon circuit, il y a bien des salles des fêtes, ça je le sais, mais aussi des salles qu'on appelle salles polyvalentes, des salles du village, des salles communales, et même parfois la salle porte parfois même le nom d'un maire ou d'un notable de la commune mort depuis longtemps. Enfin, ce sont des salles qui servent à tout. Si une vraie salle de cinéma n'est pas pratique pour autre chose que faire du cinéma, les salles polyvalentes sont pratiques pour à peu près à rien, et évidemment encore moins pour faire du cinéma. Ce sont des salles qui servent à tout et à rien, qui sont pratiques pour tout et surtout pratiques pour rien. Enfin, c'est souvent terrible quand on en demande trop à quelque chose. C'est le cas des salles. Voilà. Et je me suis dit, là on est dans une très belle salle, voilà, on est dans une très belle salle, mais ce n'est pas toujours le cas. Et les salles des fêtes, elles sont souvent mal faites. Et je me suis toujours demandé si ce n'était pas une sorte de bizutage des architectes en première année. Enfin, je ne sais pas. Les plafonds sont toujours, si les plafonds sont trop hauts, les salles sont inchauffables. Si les plafonds sont trop bas, on ne voit pas les sous-titres. Enfin, bon, c'est... Voilà. Et puis, il y a toujours des rideaux qui ne ferment plus. Ou tout du moins, un rideau là-bas qui ne ferme plus. Il y a des portes qui grincent, les chaises qui font mal aux fesses, les éclairages de sécurité qui ne s'éteignent pas, etc., etc. J'exagère peut-être un peu, mais enfin, moi, je le vois tous les jours. Donc, faire du cinéma dans autre chose qu'une salle de cinéma signifie quelque part que nous ne sommes jamais à notre place. Que nous ne sommes pas là où il faudrait. Et cela nous oblige sans cesse de nous justifier tout le temps sur notre travail. L'itinérance est un travail d'endurance, assez pénible à la longue. Pénible parce que l'on ne peut jamais se débrouiller tout seul. Ce qui est normal puisqu'il y a tant à faire. Ouvrir les portes, installer les chaises, etc., etc. École et cinéma là-dedans quand même. École et cinéma dans une salle des fêtes, c'est quoi ? Je pose cette question parce qu'il arrive souvent que des enseignants, au moment de l'inscription à école et cinéma, se demandent si cela vaut le coup. Et ils ont bien raison de se poser la question. Il faut bien dire qu'on ne peut pas cacher que l'une des ambitions du dispositif est la rencontre des élèves avec la salle de cinéma comme lieu culturel. Et les élèves, eux, ils vont surtout découvrir qu'ils vont aller dans la même salle que celle où ils ont l'habitude de jouer au ping-pong, par exemple, ou de participer au loto du foot, ou la fête du baptême du neveu. C'est pour cela qu'à première vue, en effet, le cinéma dans les communes, c'est une activité de plus, ou un créneau de moins. C'est quelques tickets de cinéma bleus déchiquetés sous les chaises, comme on retrouve une balle de ping-pong derrière un radiateur. Mais c'est quand même bien plus que cela. L'expérience cinématographique pour que le spectateur ne se limite pas à l'activité au moment de son déroulement, mais à tout ce qui a été partagé entre les individus en vue de cette activité. Le lieu où se déroule l'activité se transforme en un lieu d'identification, un lieu parfois même de souvenir. Et je crois que ça a été évoqué hier soir. Souvent, c'est assez marquant d'entendre des gens parler de leurs souvenirs de leur première séance de cinéma. Enfin, ce qu'ils considèrent comme leur première séance de cinéma, car souvent ce n'était pas dans une salle de cinéma. mais dans un café, un presbytère ou dans une caserne militaire. Ces lieux n'étaient pas des salles de cinéma et c'était peut-être ça qui était aussi marquant. Ainsi, l'expérience d'aller au cinéma et la réussite de son déroulement dépend du degré d'engagement des spectateurs. Bon, pour les cinéphiles, comme nous tous, on a énormément de façons de réinvestir ça, ou tout du moins de renouveler. Moi, j'en connais même qui écoutent Le Masque et la Plume le dimanche soir, etc. Pour les enfants, dans l'école et cinéma, ça passe par autre chose. C'est-à-dire la fabrication de cette activité comme rituel. Et alors, dans le cadre du cinéma itinérant, c'est un processus presque naturel, comme une évidence, car l'engagement des élèves dans l'activité s'impose à eux. Et chaque manque, chaque obstacle, chaque parasite, le rideau là-bas qui ne ferme pas, renforce davantage encore le besoin de jouer le jeu. Et c'est justement parce qu'on n'est pas dans une salle de cinéma que les enfants s'en approprient une image. L'impression d'être au cinéma se transforme alors en une impression d'être dans le cinéma, dans un cinéma à cœur ouvert qui n'existe que parce qu'on en a décidé ainsi. Être spectateur de cinéma dans une salle des fêtes, dans un hôpital ou dans une école, c'est ressentir que l'on vous fait une place, que l'on vous veut vous dire quelque chose, que l'on veut vous montrer quelque chose. Et cette chose, c'est un film, mais un film qui ne sera pas tout à fait seul, un film accompagné par le désir de quelqu'un ou par le surgissement de quelque chose qui va mystérieusement incarner la chose cinématographique. Je parle du rideau tout là-haut qui ne ferme pas. Alors voilà, je voulais juste dire que ce soit la cantinière qui m'ouvre la porte le matin, la secrétaire de mairie qui rajoute cinéma dans le bulletin municipal, ou les grands à la fin de la séance qui rangent les chaises, ils participent tous, de près ou de moins près, au bon ou au moins bon déroulement des séances. Mais sans le savoir, ils sont ceux qui rendent possible et parfois même participent à cette expérience cinématographique. Ils ne le savent pas toujours, ce qu'ils produisent. Et beaucoup n'éprouvent pas le besoin de le savoir pour que cela continue. C'est donc pour cette raison que je voulais absolument vous le faire savoir ici.
Merci Camille de parler si bien de ce travail si difficile. Merci à toi. Donc pas de débat. Si vous voulez, on parlera de ça au repas ou demain, voilà. Mais bon, voilà. Donc je voulais passer directement au film qu'on va voir, le tableau de Jean-François Laguioni. Jean-François Laguioni, c'est La Demoiselle violoncelliste, c'est La traversée de l'Atlantique à la rame, c'est Gwen, le livre de sable. C'est le Château des Singes, c'est l'île de Blackmore et c'est ce magnifique film qu'est le tableau. Jean-François Laguioni est présent, le distributeur du film, Marc Bonny, grâce à qui c'est possible que cette projection ait lieu ici sur l'itinérance, est là aussi. On parlera avec eux, on parlera avec Jean-François à l'issue de la séance, donc je vous souhaite une bonne projection.